Un conte naît dans la nuit, venu d'où on ne sait où. Les histoires merveilleuses se lisent volontiers quand la raison s'assoupit, quand l'esprit s'éveille pour une autre forme de pensée vertigineusement libre. Prêtez l'oreille pour goûter le charme d'une musique, d'une histoire, d'un conte qui vous transporte ailleurs. Bienvenue au pays des contes de Charles Perrault. Et maintenant, imaginez. Il était une fois un roi si grand, si aimé de ses peuples, si respecté de tous ses voisins et de ses alliés, qu'on pouvait dire qu'il était le plus heureux de tous les monarques. Son bonheur était encore confirmé par le choix qu'il avait fait d'une reine aussi belle que vertueuse. Et ses heureux époux vivaient dans une union parfaite. De leur mariage était née une magnifique jeune fille, douée de tant de grâce et de charme, qu'il ne regrettait pas de ne pas avoir plus d'enfants. La magnificence, le goût et l'abondance régnaient dans son palais. Les ministres étaient sages et habiles, les domestiques fidèles et travailleurs, les écuries vastes et remplies des plus beaux chevaux du monde. Mais ce qui étonnait les étrangers qui venaient admirer ces belles écuries, c'est qu'au lieu le plus apparent, un bel âne étalait de longues et grandes oreilles. Ce n'était pas par fantaisie, mais avec une bonne raison que le roi lui avait donné une place particulière et distinguée à son âne. Les vertus de ce rare animal méritaient cette distinction, puisque la nature l'avait formé si extraordinaire que sa litière, au lieu d'être malpropre, était couverte tous les matins avec profusion de peaux écus et des louis d'or de toute espèce que l'on allait recueillir à son réveil. Un jour, la reine fut tout à coup attaquée d'une grande maladie pour laquelle, malgré la science et l'habileté de tous les médecins, on ne put trouver aucun remède. La désolation fut générale. Le roi, sensible et amoureux, était affligé et abattu. La reine, sentant sa dernière heure approcher, dit à son époux qui fondait en larmes : Trouvez bon, mon cher mari, avant que je meure, que j'exige une chose de vous. C'est que si vous désirez vous remarier. À ces mots, le roi fit des cris pitoyables, prit les mains de sa femme, les baigna de pleurs, en l'assurant qu'il était inutile de lui parler d'un second mariage. « Non, non, dit-il, ma chère reine, parlez-moi plutôt de vous suivre. » « L'État, reprit la reine, doit exiger des successeurs. Et comme je ne vous ai donné qu'une fille, il vous faut avoir des fils qui vous ressemblent. Et je vous demande instamment, par tout l'amour que vous avez pour moi, de vous remarier seulement lorsque vous aurez trouvé une princesse plus belle et mieux faite que moi. J'en veux votre serment. Alors, je mourrai contente. » On présume que la reine, qui ne manquait pas d'amour propre, avait exigé ce serment ne croyant pas qu'il fût au monde une personne qui pût l'égaler, pensant bien que c'était s'assurer que le roi ne se remarierait jamais. La reine mourut. Jamais un mari ne fit autant de vacarme. Il pleura, sanglota, jour et nuit. Cela fut son unique occupation. Un beau jour, les grands de l'État s'assemblèrent et vinrent demander au roi de se remarier. Cette première proposition lui parut très dure et lui fit répandre de nouvelles larmes. Enfin, après quelque temps, le roi chercha parmi les princesses à marier qui serait celle qui pourrait lui convenir. Chaque jour, on lui apportait des portraits charmants, mais aucun n'avait les grâces de la reine. Ainsi, il ne se décidait point. Malheureusement, un jour, il trouva que sa fille surpassait encore de beaucoup la reine, sa mère, en esprit et en beauté. Sa jeunesse, l'agréable fraîcheur de son beau teint, enflammèrent le roi d'un ton si violent qu'il ne put le cacher à sa fille et lui dit qu'il avait décidé de l'épouser, puisqu'elle seule pouvait le dégager de son serment. La jeune princesse, remplie de vertu et de pudeur, pensa s'évanouir à cette horrible nouvelle. Elle se jeta aux pieds du roi son père et lui demanda, avec toute la force qu'elle put trouver dans son esprit, de ne pas la forcer à commettre un tel crime. Le roi, qui s'était mis en tête ce projet très bizarre, avait consulté un vieux druide pour mettre la conscience de la princesse en repos. Ce druide, moins religieux qu'ambitieux, s'insinua avec tant d'adresse dans l'esprit du roi, lui adoucit tellement le crime qu'il allait commettre, qu'il lui persuada même que c'était une belle œuvre que d'épouser sa fille. Le roi, flatté par les discours de ce scélérat, l'embrassa et revint chez lui, plus entêté que jamais dans son projet. Il fit donc ordonner à sa fille de se préparer à lui obéir. La jeune princesse, outrée d'une vive douleur, n'imagina rien d'autre que d'aller trouver la fée des lilas, sa marraine. Elle partit la même nuit dans un joli cabriolet attelé d'un gros mouton qui savait tous les chemins. Elle y arriva heureusement. La fée, qui aimait la jeune princesse, lui dit qu'elle savait tout ce qu'elle venait lui dire et qu'elle n'ait aucun souci, rien ne pouvant lui nuire si elle exécutait fidèlement ce qu'elle allait lui prescrire. « Ma chère enfant, lui dit-elle, ce serait une grande faute que d'épouser votre père. Et sans le contredire, vous pouvez l'éviter. Dites-lui que pour remplir une fantaisie que vous avez, il faut qu'il vous donne une robe de la couleur du temps. Jamais, avec tout son amour et son pouvoir, il ne pourra y parvenir. » La princesse remercia bien sa marraine. Et dès le lendemain matin, elle dit au roi son père ce que la fée lui avait conseillé. Elle demanda une robe couleur du temps. Le roi, ravi de l'espérance qu'il lui donnait, assembla les plus fameux couturiers et leur commanda cette robe, sous la consigne que s'ils ne pouvaient réussir, ils le feraient tous pendre. Le second jour, ils apportèrent la robe tant désirée. La princesse en fut très embarrassée. La robe était d'un bleu magnifique et ceinte de fins nuages d'or. Le roi pressait au mariage. Il fallut recourir encore à la marraine qui, tout étonnée de ce que son secret n'avait pas réussi, lui dit d'essayer d'en demander une de la couleur de la lune. Le roi, qui ne pouvait rien lui refuser, envoya chercher les plus habiles couturiers et leur commanda si expressément une robe couleur de la lune qu'elle fut prête en 24 heures. La fée des lilas, qui savait tout, vint au secours de l'affligée princesse et lui dit « Ou je me trompe fort, ou je crois que si vous demandez une robe couleur du soleil, nous viendrons à bout de dégoûter le roi de votre père, car jamais on ne pourra parvenir à faire une pareille robe. Ou nous gagnerons au moins du temps. » La princesse demanda la robe et l'amoureux roi donna sans regret tous les diamants et les rubis de sa couronne pour aider à ce superbe ouvrage, avec l'ordre de ne rien épargner ou rendre cette robe égale au soleil. Aussi, dès qu'elle parut, tous ceux qui la virent déployée furent obligés de fermer les yeux tant ils furent éblouis. C'est de ce temps que datent les lunettes vertes et les verres noirs. Que devint la jeune fille à cette vue? Jamais on n'avait vu une robe si belle et si artistement cousue. Elle était confondue et sous prétexte d'avoir mal aux yeux, elle se retira dans sa chambre où la fée l'attendait, plus honteuse qu'on ne peut dire. Et en voyant la robe couleur du soleil, elle devint rouge de colère. « Oh, pour le coup, ma fille, dit-elle à la princesse, nous allons mettre l'indigne amour de votre père à une terrible épreuve. Je le crois bien entêté de ce mariage qu'il croit si prochain. Mais je pense qu'il sera un peu étourdi de la requête que je vous conseille de lui faire. Demandez-lui la peau de cet âne qu'il aime si passionnément et qui fournit à toutes ses dépenses avec tant de profusion. Allez, allez, ma fille, et ne manquez pas de lui dire que vous désirez cette peau. » La princesse, ravie de trouver encore un moyen d'annuler cet affreux mariage, pensait en même temps que son père ne pourrait jamais se résoudre à sacrifier son âne. Elle alla le trouver et lui exposa son désir pour la peau de ce bel animal. Quoique le roi fût très étonné de cette fantaisie, il ne tarda pas à la satisfaire. Le pauvre âne fut sacrifié et la peau galamment apportée à la princesse, qui, ne voyant plus aucun moyen d'échapper à son malheur, s'en allait désespérée lorsque sa marraine accourut. « Que faites-vous, ma fille ? » dit-elle, voyant la princesse déchirant ses cheveux et meurtrissant ses belles joues. « Voici le moment le plus heureux de votre vie. Enveloppez-vous de cette peau, sortez de ce palais et allez tant que la terre pourra vous porter. Lorsqu'on sacrifie tout à la vertu, Dieu sait vous récompenser. Allez, j'aurai soin que votre toilette vous suive partout. En quelque lieu que vous vous arrêtiez, votre malle, où seront vos habits et vos bijoux, vous suivra partout. Et voici ma baguette magique que je vous donne. En frappant la terre, quand vous aurez besoin de cette malle, elle apparaîtra à vos yeux. mais hâtez-vous de partir et ne tardez pas. » La princesse embrassa mille fois sa marraine, la pria de ne pas l'abandonner, mit cette vilaine peau après s'être barbouillée de suie de cheminée et sortit du riche palais sans être reconnue de personne. L'absence de la princesse causa une grande rumeur. Le roi, au désespoir, qui avait fait préparer une fête magnifique pour le mariage, était inconsolable. Il fit partir plus de 100 gendarmes et plus de 1000 mousquetaires pour aller à la recherche de sa fille. Mais la fée qui la protégeait la rendait invisible aux plus habiles recherches. Pendant ce temps, la jeune fille cheminait. Elle alla bien loin et cherchait partout une place. Mais, quoique par charité on lui donnât à manger, on la trouvait si crasseuse, si sale, que personne ne la voulait. Cependant, elle entra dans une belle ville, à la porte de laquelle il y avait une métairie, dont la fermière avait besoin d'une souillon pour laver les torchons, nettoyer les dindons et l'auge des cochons. Cette femme, voyant cette voyageuse si sale, lui proposa d'entrer chez elle. La princesse accepta de grand cœur. Elle était si fatiguée d'avoir tant marché. On la mit dans un coin reculé de la cuisine, tant sa peau d'âne la rendait sale et dégoûtante. Enfin, on s'y accoutuma. D'ailleurs, elle était si soigneuse de remplir ses devoirs que la fermière la prit sous sa protection. Elle conduisait les moutons, elle menait les dindons paîtres avec une telle intelligence qu'il semblait qu'elle n'eût jamais fait autre chose. Tout fructifiait sous ses belles mains. Un jour, assise près d'une claire fontaine, si triste de sa condition, elle se regarda et vit l'effroyable peau d'âne qui faisait son habillement. Honteuse de sa peau, elle se décrassa le visage et les mains qui devinrent plus blanches que l'ivoire et son beau teint reprit sa fraîcheur naturelle. La joie de se trouver si belle lui donna envie de se baigner, ce qu'elle fit aussitôt. Mais il lui fallut remettre sa peau pour retourner à la métairie. Heureusement, le lendemain était un jour de fête. Alors, elle eut le loisir de tirer sa malle, de poudrer ses beaux cheveux et de mettre sa belle robe couleur du temps. La belle princesse s'habilla et s'admira, si bien qu'elle résolut, pour se désennuyer, de mettre tour à tour ses belles robes, les jours de fête et les dimanches. Elle mêlait des fleurs et des diamants dans ses beaux cheveux avec un art admirable. Et souvent, elle soupirait de n'avoir pour témoin de sa beauté que ses moutons et ses dindons, qu'il aimait autant avec son horrible peau d'âne, dont on lui avait donné le nom dans cette ferme. Un jour de fête, que peau d'âne avait mis la robe couleur du soleil, le fils du roi à qui cette ferme appartenait y descendit pour se reposer en revenant de la chasse. Ce prince était jeune, beau et admirablement bien fait. On offrit à ce jeune prince une collation champêtre qu'il accepta. Puis il se mit à parcourir les basses-cours et tous les recoins. En courant ainsi de lieu en lieu, il entra dans une sombre allée au bord de laquelle il vit une porte fermée. La curiosité lui fit mettre l'œil à la serrure. Il aperçut la princesse si belle et si richement vêtue qu'il la prit pour une divinité. L'impétuosité du sentiment qu'il éprouva dans ce moment l'aurait porté à enfoncer la porte sans le respect que lui inspira cette ravissante personne. Il sortit avec peine de cette allée sombre et obscure et il demanda qui était la personne qui habitait dans cette petite chambre. On lui répondit que c'était une souillon qu'on nommait peau d'âne à cause de la peau dont elle s'habillait et qu'elle était si sale et si crasseuse que personne ne la regardait ni lui parlait et qu'on ne l'avait prise que par pitié pour garder les moutons et les dindons. Le prince, peu satisfait de cet éclaircissement, vit bien que ces gens grossiers n'en savaient pas davantage et qu'il était inutile de les questionner. Il revint au palais du roi son père, plus amoureux que jamais, ayant continuellement devant les yeux la belle image de cette divinité qu'il avait vue par le trou de la serrure. L'agitation de son sang, causée par l'ardeur de son amour, lui donna dans la même nuit une fièvre si terrible que bientôt il fut réduit à rester couché dans son lit. La reine, sa mère, qui n'avait que lui comme enfant, se désespérait de ce que tous les remèdes étaient inutiles. Elle promettait en vain les plus grandes récompenses aux médecins. Ils y employèrent tout leur art, mais rien ne guérissait le prince. Enfin, ils devinèrent qu'un mortel chagrin causait tout ce ravage. Ils en avertirent la reine qui, toute pleine de tendresse pour son fils, vint lui demander la cause de son mal et que, quand il s'agirait de lui céder la couronne, le roi son père descendrait de son trône sans regret pour l'y faire monter et que s'il désirait quelque princesse, même si on était en guerre avec le roi son père, on sacrifierait tout pour obtenir ce qu'il désirait et qu'elle le conjurait de ne pas se laisser mourir puisque sa vie dépendait de la leur. La reine n'acheva pas ce touchant discours sans mouiller le visage du prince d'un torrent de larmes. « Mère, lui dit enfin le prince avec une voix très faible, je ne veux pas la couronne de mon père. Qu'ils vivent de longues années. Quant aux princesses que vous m'offrez, je n'ai pas encore pensé à me marier. Ah, mon fils, reprit la reine, dis-moi ce que tu désires et sois bien assuré que tout te sera accordé. Eh bien, ma mère, je veux que Peau d'âne me fasse un gâteau et que dès qu'il sera fait, on me l'apporte. » La reine, tout étonnée de ce nom bizarre, demanda qui était cette peau d'âne. Un de ses officiers, qui par hasard avait vu cette fille, lui dit « Madame, c'est la plus vilaine bête après le loup, une peau noire, une crasseuse, qui loge dans votre métairie et qui garde vos dindons. » Qu'importe, dit la reine, mon fils au retour de la chasse a peut-être mangé de sa pâtisserie. C'est une fantaisie de malade. En un mot, je veux que Peau d'âne, puisque Peau d'âne il y a, lui fasse promptement un gâteau. On courut à la métairie et l'on fit venir Peau d'âne pour lui ordonner de faire de son mieux un gâteau pour le prince. Quelques auteurs ont assuré que Peau d'âne, au moment où le prince avait mis l'œil à la serrure, Elle avait vu ce prince si jeune, si beau et si bien fait, que l'idée lui en était restée, et que souvent, ce souvenir lui avait coûté des grands soupirs. Quoi qu'il en soit, Bodan, l'ayant vu, ravi de pouvoir trouver un moyen d'être connu, s'enferma dans sa chambre, jeta sa vilaine peau, se décrassa le visage et les mains, coiffa ses blonds cheveux, mit un beau corset d'argent brillant et se mit à faire le gâteau tant désiré. Elle prit de la plus pure farine, des œufs et du beurre bien frais. En pétrissant, une bague qu'elle avait au doigt tomba dans la pâte et s'y mêla. Et dès que le gâteau fut cuit, elle mit sa peau sur elle et elle donna le gâteau à l'officier, à qui elle demanda des nouvelles du prince. Mais cet homme, ne daignant pas lui répondre, courut chez le prince lui apporter le gâteau. Le prince le prit avidement des mains de cet homme et le mangea avec une telle vivacité que les médecins qui étaient présents ne manquèrent pas de dire que cette fureur n'était pas bon signe. Effectivement, le prince a failli s'étrangler avec la bague qu'il trouva dans un morceau du gâteau. Mais il la tira adroitement de sa bouche. Il examina cette fine émeraude montée sur un jonc d'or dont le cercle était si étroit qu'il jugea ne pouvoir servir qu'aux plus jolis doigts du monde. Il baisa 1000 fois cette bague et la mit sous son chevet. Le tourment qu'il se donna pour imaginer comment il pourrait voir Bodan qui avait fait le gâteau qu'il avait demandé, lui redonna la fièvre très fortement. Et les médecins, ne sachant plus quoi faire, déclarèrent à la reine que le prince était malade d'amour. La reine accourut chez son fils avec le roi qui se désolait. « Mon fils, mon cher fils !» s'écria le roi affligé. « Dis-nous celle que tu veux. Nous jurons que nous te la donnerons, fût-elle la plus vile des esclaves. » La reine, en l'embrassant, lui confirma le serment du roi. Le prince leur dit « Mon père et ma mère, j'épouserai la personne à qui cette bague ira, telle qu'elle soit. » Le roi et la reine prirent la bague, l'examinèrent curieusement et jugèrent, ainsi que le prince, que cette bague ne pouvait aller qu'à quelques filles de bonne maison. Alors, le roi, ayant embrassé son fils, en le conjurant de guérir vite, sortit, fit sonner les tambours, les fifres et les trompettes par toute la ville et fit crier que l'on n'avait qu'à venir au palais pour essayer une bague et que celle à qui elle irait juste au doigt épouserait l'héritier du trône. Les princesses d'abord arrivèrent, puis les duchesses, les marquises et les baronnes, mais aucune ne put mettre la bague. Le prince, qui se portait mieux, faisait lui-même l'essai. Enfin, on en vint aux filles de chambre. Elles ne réussirent pas mieux. Il n'y avait plus personne qui n'eût essayé cette bague sans succès. Lorsque le prince demanda les cuisinières, les marmitonnes, les gardeuses de moutons, on amena tout cela. Mais leurs gros doigts rouges et courts ne purent pas passer la bague. « A-t-on fait venir cette peau d'âne qui m'a fait un gâteau ?» dit le prince. Chacun se prit à rire et lui dit que non, tant elle était sale et crasseuse. Qu'on aille la chercher maintenant, dit le roi. On courut en riant et en se moquant chercher peau d'âne. La princesse, qui avait entendu les tambours, s'était bien doutée que sa bague faisait ce tintamarre. Elle aimait le prince. Et comme le véritable amour est craintif et n'a pas de vanité, elle était dans la crainte continuelle qu'une autre dame n'eût le doigt aussi petit que le sien. Elle eut donc une grande joie quand on vint la chercher et qu'on frappa à sa porte. Depuis qu'elle avait su qu'on cherchait un doigt à se mettre sa bague, je ne sais quel espoir l'avait portée à se coiffer plus soigneusement et à mettre son beau corsage d'argent avec le jupon plein de falbalas de dentelle semé d'émeraudes. Sitôt qu'elle entendit qu'on frappa à la porte et qu'on l'appelait pour aller chez le prince, elle remit promptement sa peau d'âne et ouvrit la porte. Les gens, en se moquant d'elle, lui dirent que le roi la demandait pour lui faire épouser son fils. Puis, avec des longs éclats de rire, ils l'amenèrent chez le prince, qui lui-même, étonné de l'accoutrement de cette fille, n'osa pas croire que ce fût elle qu'il avait vue, si belle, si pompeuse. Il était triste de s'être si lourdement trompé. « Est-ce vous, lui dit-il, qui logez au fond de cette allée obscure, dans la troisième basse-cour de la métairie ?»« Oui, seigneur, répondit-elle. « Montrez-moi votre main, dit-il en tremblant et en poussant un profond soupir. » Et qui furent bien surpris, ce furent le roi et la reine, ainsi que tous les chambellans et les grands de la cour. Lorsque de dessous cette peau noire et crasseuse sortit une magnifique petite main délicate, blanche et couleur de rose, où la bague s'ajusta sans peine au plus joli petit doigt du monde. Et par un petit mouvement que la princesse se donna, la peau tomba et elle parut d'une beauté si ravissante que le prince, tout faible qu'il était, se mit à ses genoux et les serra avec une ardeur qui la fit rougir. Mais on ne s'en aperçut presque pas, parce que le roi et la reine vinrent l'embrasser de toute leur force et lui demander si elle voulait bien épouser leur fils. La princesse, confuse de tant de caresses et de l'amour que lui marquait ce beau jeune prince, allait cependant les remercier, lorsque le plafond s'ouvrit et que la fée des lilas, descendant dans un char fait de branches et de fleurs, conta avec une grâce infinie l'histoire de la jeune princesse. Le roi et la reine, charmés de voir que peau d'âne était une grande princesse, redoublèrent leurs caresses. Mais le prince fut encore plus sensible à la vertu de la princesse, et son amour était grand. L'impatience du prince pour épouser la princesse fut telle qu'à peine donna-t-il le temps de faire les préparatifs pour ce magnifique mariage. Le roi et la reine, qui étaient fans de leur belle-fille, lui faisaient mille caresses et la tenaient tout le temps dans leurs bras. Elle avait déclaré qu'elle ne pouvait pas épouser le prince sans le consentement du roi son père. Aussi fut-il le premier à qui on envoya une invitation, sans lui dire qui était l'épousé, bien sûr. La fée des lilas, qui présidait à tout, l'avait exigé, à cause des conséquences, bien sûr. Il vint des rois de tous les pays, les uns en chaise à porteurs, d'autres en cabriolet, de plus éloignés montés sur des éléphants, sur des tigres, sur des aigles. Mais le plus magnifique et le plus puissant fut le père de la princesse, qui heureusement avait oublié son amour impossible et avait épousé une reine veuve fort belle, dont il n'avait point eu d'enfant. La princesse courut au devant de son père, il la reconnut aussitôt et l'embrassa avec une grande tendresse, avant qu'elle eût le temps de se jeter à ses genoux. Les noces se firent avec toute la pompe imaginable. Les jeunes époux, peu sensibles à ces magnificences, ne virent et ne regardèrent que. Le roi, père du prince, fit couronner son fils en ce même jour et, lui baisant la main, le plaça sur son trône. Les fêtes de cet illustre mariage durèrent près de 3 mois. Mais l'amour des deux époux durerait encore tant ils s'aimaient, s'ils n'étaient pas morts 100 ans après.